Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Que faire pour être performant au travail? Alain Poutou, expert en ressources humaines, est notre invité pour parler de ce sujet. Certaines personnes, on le disait en titre, perdent leur emploi ou encore n'ont jamais reçu de promotion dans leur travail par manque des performances. Leurs employeurs ou patrons estiment que le rendement au travail ne répond pas à ce qu'on attend d'eux. Alors, que faire pour être performant au travail? Alain Poutou, la première question qui nous vient à l'esprit, que faut-il comprendre par performance au travail et à quel moment peut-on dire qu'un employé n'est pas performant?
Oui, merci beaucoup, M. Marcel. La performance au travail, c'est la capacité qu'un employé a pour répondre aux missions lui assignées par son organisation. Il est noté que pour améliorer d'abord les performances, tout est parti des objectifs, de la vision et de la politique de chaque entreprise. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite ou qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs par la baisse des performances de leurs agents. Mais il est à noter que dans beaucoup d'organisations, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vous recrute, soit dans des entreprises, des multinationales ou des organisations internationales de renommée, on fait signer à l'agent ce qu'on appelle le pacte de performance, c'est-à-dire un document qui décrit les tâches, les objectifs, les résultats attendus et la modalité de l'exécution des tâches par rapport à votre poste. Et 6 mois après, on essaye de vous évaluer. Si vous n'avez pas été à la hauteur ou vous n'avez pas atteint les objectifs assignés, l'organisation va vous demander de vous expliquer pourquoi cela n'a pas été atteint. Alors, c'est après cette question, après cette évaluation, qu'on vous donne la deuxième chance, c'est-à-dire d'être formé ou de vous envoyer un renforcement des capacités. Après ces renforcements des capacités ou la remise à niveau, on aura encore à vous évaluer pour la deuxième fois. Si on constate que les performances après les renforcements des capacités sont toujours faibles, en ce moment-là, l'organisation doit vous mettre à la porte. C'est ça le principe. Mais il est à noter que pour améliorer les performances des agents, d'abord, c'est la responsabilité de chaque entreprise. Il y a ce qu'on appelle développement des ressources humaines. Chaque organisation sérieuse doit mettre en place un plan de développement des compétences. C'est-à-dire, il y a des formations dans l'entreprise, les formations à l'extérieur de l'entreprise ou les programmes des séminaires de recyclage. Mais si vous êtes dans une organisation où cette organisation n'a pas mis en place la politique de développement des ressources humaines, là, c'est la responsabilité de l'agent lui-même. Il est à noter que quand vous avez développé vos performances, vous avez développé vos compétences, ça vous donne double avantage. D'abord, votre façon de produire change. Et aussi, ça vous permet, n'est-ce pas, une valeur ajoutée pour vous vendre ailleurs. Vous verrez les gens qui travaillent dans un système, le système ne lui envoie pas en formation, lui-même s'est fait former. Il se rend compte que le niveau qu'il a maintenant par rapport au niveau où il était entré, il a un niveau très supérieur et il trouve que la maison ne lui paye pas ce qu'il faut par rapport à ses compétences. Vous verrez facilement, un employé prend son temps pour lire les offres d'emploi qui sont publiées par les différents sites internet et il postule parce qu'il se rend compte qu'il a la compétence, il a les performances qu'il faut. Donc d'abord, la responsabilité de l'entreprise elle-même avant que ça soit la responsabilité de l'agent.
Alors parlons de la responsabilité de l'agent parce que là, ça paraît très très important. Est-ce que être performant au travail pour l'agent, ça aimerait dire également être plus productif?
Oui, parce qu'il y a la différence entre l'efficacité et la performance, monsieur le journaliste. Oui. Quelqu'un qui est efficace, c'est celui qui accomplit les tâches telles qu'on lui a demandé de faire. Mais celui qui est performant, c'est celui qui fait au-delà de ce qu'on l'a assigné. Donc, ça va de la responsabilité de l'agent en ce moment. Pourquoi? Parce que l'agent doit chercher la performance. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a des tâches ou des postes qui nécessitent des performances solides. On veut, par exemple, diligenter une mission d'audit ou une entreprise est en train de chercher à les gens qui ont détourné l'argent ou lorsqu'il y a un contrôle ou une fraude fiscale. Ce ne sont pas tous les vérificateurs ou les inspecteurs qu'on envoie en mission. À ce niveau-là, on doit cibler les compétences. Et vous verrez que si vous êtes performant par votre façon de travailler, chaque fois qu'il y a une mission de service, vous vous rendrez compte que votre nom doit toujours être sur cet ordre de mission. On voit même dans certaines entreprises, vous verrez quelqu'un qui fait une année, deux ans, il ne part pas en mission. S'il y a des missions, lui, on l'envoie d'aller contrôler les boutiques, les petits établissements, mais dans les grandes entreprises ou les grands dossiers, on ne l'envoie pas. Vous verrez quelqu'un qui dira non parce que je ne suis pas en bon terme avec les chefs, mais les problèmes, on a trouvé que la personne n'a pas les performances qu'il faut pour aller détecter les problèmes. Donc, si vous êtes performant, vous avez développé vos performances, vous verrez que même dans votre façon de faire, même des collègues au service, ils vont se rendre vraiment compte que nous avons affaire avec quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est à la hauteur de son travail.
Voilà, Alain Poutou, vous avez épinglé là un exemple était très important pour un travailleur qui va pas en mission. Bien souvent, il va plutôt, comme vous l'avez dit, pour inspecter des boutiques. Alors, pour un tel travailleur, lorsqu'il se rend compte que lui, chaque fois qu'il va en mission, c'est pas pour de mission intéressante et il estime que non, c'est parce qu'il n'est pas en bon terme avec le patron, qu'est-ce qu'il doit faire un tel travailleur? Comment lui-même peut se juger de manière à ce que se dise bon, il faut absolument que je puisse aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour un tel agent?
Oui, merci beaucoup. La première des choses, d'abord, l'agent doit s'auto-évaluer, il doit faire l'évaluation personnelle. Il doit se poser la question, qu'est-ce qui fait que les gens vont en mission, moi je ne pars pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des dossiers sensibles qu'on confie à certains agents, moi on ne me confie pas. Il doit essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il fait comme travail. Parce que je veux vous dire qu'il y a des gens qui travaillent de 8h jusqu'à 17h, c'est-à-dire il accomplit les tâches quotidiennes, mais on ne sent pas à lui vraiment les soucis d'aller plus loin. C'est-à-dire il sait que le matin quand je viens, je dois faire ceci, je dois faire cela, ça devient une habitude. Maintenant, lorsque vous trouvez qu'il y a des gens qui avancent, vous devez vous poser la question, pourquoi moi je n'avance pas? Alors, vous allez faire quoi? Vous allez essayer un peu de voir qu'est-ce que ces gens ici donnent réellement comme rendement dans une entreprise par rapport à ce que moi je donne. Une fois que vous avez trouvé la réponse à votre question, c'est en ce moment-là que l'agent lui-même doit mettre en place une politique de développement des compétences, développement des personnels. Vous allez même remarquer, même quelqu'un qui travaille, vous verrez quelqu'un, il est entré au pouvoir, il est nommé ministre ou mandataire. Il peut faire 3 à 5 ans depuis qu'il est entré jusqu'à la fin de son mandat. Si vous essayez un peu de lire son CV, vous verrez que le CV est tel que la personne était entrée en fonction. C'est-à-dire, on ne va pas en formation. Vous verrez quand il y a un atelier, certains chefs arrivent au début, à l'ouverture et à la clôture. Mais vous ne verrez pas quelque part où il va s'asseoir, il prend note de tout ce qui se déroule dans cet atelier-là. C'est-à-dire, les gens, par moment, restent focalisés dans les postes qu'ils occupent, sans se poser la question, qu'est-ce que je suis censé faire pour, n'est-ce pas, maximiser mon rendement. Et vous verrez, quand vous évaluez de telles personnes, depuis qu'il est entré, il n'y a pas d'impact visible sur le terrain par rapport à son poste. Il peut être là, il est mandataire, bon, lui, il sait que c'est la routine, mais les soucis là de renforcement des capacités, les soucis là d'améliorer les performances, il n'y en a pas. Et c'est ce qui fait que, sur le terrain, il n'y a rien, on ne voit rien, parce que les personnes ne sont pas performantes, ils n'ont pas développé leurs compétences. Alors, pour un agent qui veut, n'est-ce pas, développer ses compétences, améliorer ses performances dans le travail, la première des choses que l'agent doit faire, c'est ce que j'appelle l'initiative personnelle. C'est-à-dire, l'agent doit mettre en place un plan personnel de formation continue. C'est-à-dire, l'agent lui-même, tel que vous êtes là, vous êtes journaliste, bon, vous vous dites, d'accord, dans cette année ici, 2013, il me faut, par exemple, une formation sur la planification stratégique, une formation sur la communication marketing. Donc, l'initiative personnelle, vous devez mettre en place un plan personnel de formation continue. Deuxième stratégie que vous
devez mettre Alain Poutou, est-ce qu'on peut proposer un tel plan, par exemple, à son employeur, c'est possible aussi? Vous prenez l'initiative et vous proposez à votre employeur.
Justement, si l'organisation a mis en place les plans de développement des ressources humaines, parce que la formation, ça peut être soit c'est l'agent qui sollicite ou soit c'est l'entreprise qui envoie l'agent en formation. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille comme assistant aux finances ou qui est comptable, il peut être licencié en sciences commerciales et financières. Mais actuellement, il y a des logiciels de comptabilité, ce qu'on appelle logiciel de bureau, que les gens utilisent pour faire la comptabilité.
Oui.
Alors, l'agent, n'est-ce pas, l'entreprise peut envoyer l'agent en formation. Il lui dit non, va suivre la formation sur comment tenir la comptabilité informatisée. Si l'entreprise n'a pas pris l'initiative et que vous-même vous vous dites non, cette formation peut m'ajouter une valeur ajoutée dans mon poste, vous vous demandez à l'entreprise. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations n'aiment pas envoyer les gens en formation. Ils
oui.
trouvent que ça coûte cher. Et vous verrez parfois, ils vous envoient en formation, mais lorsque vous terminez la formation, ils ne vous remettent même pas les certificats de la formation parce qu'ils craignent que dès que vous êtes formé, vous pouvez aller vous vendre ailleurs. Alors, pour éviter la malhonnêteté de beaucoup de gens, les entreprises préfèrent ne plus envoyer des agents en formation. D'où l'agent lui-même, pendant qu'il est payé, il doit quand même aussi faire des économies à côté pour sa formation continue.
Et c'est très important. Voilà, là, pourtant, on revient tout à l'heure. Il y a déjà, à tout à l'heure à vous, parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Que faire pour être performant au travail? On en parle avec Alain Poutulé, expert en ressources humaines. Vous êtes intéressé par le sujet. Vous pouvez nous appeler au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicaces@radiocapi.net.
Albert nous appelle de Kananga, dans le Kassai occidental. Déborah est à Isiro, dans la province orientale. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Albert Mwananga, depuis Kananga.
On vous écoute, Albert.
Et j'aimerais intervenir justement à propos de ce sujet. J'aimerais savoir tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le système de prendre toujours le fils de tel, le frère A, ainsi de suite. Dans des entreprises, par exemple, comme ça, mais les personnes-là, peut-être, qui ne sont pas performants, compétents ou capables d'effectuer certaines tâches et qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais demander à notre invité qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour éviter ce système. Et la deuxième préoccupation, j'aimerais passer ainsi. Alors, j'aimerais demander à notre aimable invité à ce niveau des choses où on n'est pas responsable, on est responsable de la faillite des choses quand on prend les levées de telle ou comme ça. Parce que je l'ai déjà cité.
J'ai pas bien compris, Alain, la deuxième question. Vous avez, plutôt, Albert, vous avez dit. Essayez de répéter la deuxième question. Vous avez,
je répète la deuxième question.
Oui.
Alors. J'aimerais demander à notre invité,
oui.
À ce niveau des choses, n'est-ce pas, on est responsable de la faillite?
Ah, d'accord, on a compris. Oui. Alors, merci à Albert Mwananga, vous appelez depuis Kananga, dans le Kassai occidental, l'invité va vous répondre tout à l'heure. Déborah Lomboto est à Isiro, dans la province orientale. Déborah, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Déborah.
Oui, j'ai des questions à poser. La première question est celle-ci. Si un employé est incompétent et vous le mettez à la place qu'il ne faut pas, il y a une personne qui travaille mieux en déplaçant celui-là et vous le mettez à la place qu'il ne fallait pas. Maintenant, l'autre-là qu'il travaille, il n'est pas incompétent. Vous l'avez mis seulement parce que il est, par exemple, votre membre de la famille ou ça, vous êtes dans le même tribu. Quel conseil vous pouvez donner à une autre personne-là? Et la deuxième question est celle-ci. Quelle procédure ou soit quel moyen vous pouvez donner aux gens qui savent bien travailler, on ne le place pas dans les entreprises et on le considère même pas, on considère seulement d'autres gens qui ne savent rien, on le met là. Et je ne sais pas vraiment si ça serait comment l'entreprise sera vraiment bafouer comme ça.
Voilà, Déborah, on a compris votre idée. Hein. L'invité va vous répondre, Alain Poutou.
Oui, Monsieur Marcel, par rapport à la question de Madame Déborah Desiro, Madame pose la question, parfois il y a des entreprises qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut.
Tout à fait.
Par exemple, quelqu'un qui est compétent, on le met à un autre poste, on prend celui qui est moins compétent, on le met dans les postes qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, moi je crois que tout est parti au niveau du recrutement. Vous savez, lorsqu'on est en train de recruter quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la définition des exigences du poste. Avant de recruter quelqu'un, vous devez, n'est-ce pas, établir les critères par rapport au poste. Et quand les gens arrivent à postuler, il y a ce qu'on appelle l'interview basée sur des caractères. Vous confrontez d'abord les compétences de la personne par rapport à son tempérament. Mais souvent, c'est drôle. Bon, c'est un cas que moi, je trouve un peu fréquent par rapport plus à la fonction publique. Par exemple, vous verrez, les gens ne postulent pas comme il faut, mais on recommande les gens. Dès que vous êtes recommandé, on fait tous les matricules sort. Et la conséquence, vous verrez, si vous remarquez aujourd'hui, à la fonction publique, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on sent que et les fonctionnaires eux-mêmes sont en train de souffrir. Les objectifs ne sont même pas fixés. Donc, les gens sont en train, n'est-ce pas, de naviguer sans précision. Pourquoi? Parce qu'au début, d'abord, le recrutement n'a pas été bien fait comme il faut. Donc, c'est un système personnellement pour une entreprise qui a les soucis de la productivité, les soucis de la gestion axée sur les résultats. Je pense que cette entreprise ne doit pas recruter les gens sur base des recommandations. Oui, c'est un constat que nous sommes en train de voir actuellement. On recrute les gens sur base des recommandations, des tendances politiques ou tendances familiales, mais ça ne permet pas vraiment à l'entreprise d'aller de l'avant. Mais si quelqu'un tient que je vais le faire, alors il serait mieux que vous puissiez, après avoir recruté un membre de famille, il faut le former. Mais vous les renforcez en capacité pour qu'ils puissent vous donner les rendements que vous voulez. Mais si vous les mettez là, vous ne les formez pas, mais vous n'avez rien fait. Alors, M. Albert Dekananga a posé la question qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, comment on peut juger quelqu'un au début, on vient de les recruter, il est moins performant. Mais moi, je ne pense pas qu'au recrutement ou au début, vous pouvez dire que tel est performant, tel n'est pas performant. Il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à convaincre lors des interviews, mais quand vous les mettez au poste, la personne peut donner un bon rendement. Moi, je pense que pour juger les performances de la personne, il faut d'abord les laisser le temps de travailler. Après un moment, vous l'évaluez. D'emblée, comme ça, on ne peut pas évaluer quelqu'un.
Voilà, donc la période ici est très très importante pour une personne.
Elle est très importante, ouais. Elle est très importante. On ne peut pas juger quelqu'un comme ça, non, il est moins performant. Non, il y a des raisons aussi psychologiques. Hein. Vous verrez par exemple la période où on a recruté quelqu'un, la personne était sous choc ou de certains événements. Vous verrez même son rythme de travail, ce qu'il a connu comme problème va aussi influencer dans son exercice. Donc on ne peut pas évaluer quelqu'un au début, laissez-le d'abord travailler 3-6 mois. Et puis vous l'évaluez par rapport aussi aux objectifs. Parce que vous ne lui avez pas fixé des objectifs, comment vous allez juger qu'il est performant ou il est moins performant? Il faut d'abord les objectifs. Les entreprises là, qui recrutent les membres des familles, des gens par rapport aux relations, si vous essayez un peu d'arriver chez eux, ils n'ont même pas un plan d'action stratégique. Il n'y en a même pas. Ils n'ont pas d'objectifs. Ils vivent comme ça, sur les ambitions, mais il n'y a pas un plan défini.
Voilà, il y a deux autres auditeurs en ligne, Ismaël Mupoi qui est à Lubumbashi dans la province du Katanga, Théodore Mbouyamba est en Bujimaï dans le Kassai oriental. Ismaël, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ismaël.
Oui, ma première préoccupation, comme on a déjà répondu, l'une de mes préoccupations, c'est le savoir. Et juste celui qui est regretté parfois est orgueillé. Et par rapport au niveau des études, c'est ça ce que nous remarquons par exemple en médecine. C'est lui. A, B ne peut jamais se laisser, et plutôt A1 ne peut jamais se laisser guider sauf que AD. C'est ça un problème. À cela, comment on peut qualifier, soit comment ce dernier peut avoir une promotion quand il s'élève par rapport à son propriétaire? La deuxième préoccupation était celle de savoir. Maintenant, la faute incombe à qui? Juste quand c'est lui qui était le chef, il avait regretté son frère de la famille. Mais, par exemple, il peut avoir pu trouver la promotion, il est parti. Mais ce dernier n'a pas une connaissance à sur les domaines. Mais le deuxième qui va venir. comment tel peut être maintenant l'incidence à celui qui n'a pas une capacité à subir pour assurer telle ou telle fonction parce qu'il a été pris par son membre de la famille. Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Théodore Mbouyamba, vous êtes en Boujima dans le Cassé Oriental. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute Théodore.
Oui, j'ai une préoccupation, une petite question. Comment un agent jugé de performant prépare lui-même étant ordonnateur de recettes de l'État, il ordonne plutôt le note de perception à payer auprès des contribuables. En même temps, il se dit comptable de l'État. Au lieu de guider ces gens d'aller payer à la banque ou bien à la caisse de l'État, il préfère lui prendre cet argent. Donc, les contribuables, en versant l'argent, au retour, ils doivent attendre les preuves de paiement. Et en attendant les preuves de paiement, ça n'arrive toujours pas. Et quand on fait des remarques, on ne remet pas toujours des preuves de paiement. Alors, les gens sont obligés de se présenter auprès de leur chef pour présenter ses remarques. Mais, à la prochaine occasion, quand il y a ordre de démission, nous retrouvons les mêmes personnes dans les ordres de démission, avec leurs mêmes défauts-là. Et les preuves de paiement n'existent pas. Avec leurs défauts, quand il y a ordre de démission, ce sont toujours eux. Maintenant, les gens se demandent, comment ça présente cette situation? C'est leur chef qui les encadre ou comment tout ça? Voilà un peu ma question.
Merci Théodore. Alain Poutou.
Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Par rapport à la question de monsieur Théodore, cette personne est en train de faire cumul des fonctions. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est comme actuellement, vous verrez parfois on recrute quelqu'un, la personne est en même temps assistant administratif et financier. Donc plus vous êtes en train de cumuler la personne à des fonctions, plus aussi vous êtes en train de lui donner la possibilité, n'est-ce pas, de détourner, de faire des magouilles. Bon, l'état de ce monsieur, il dit qu'il commet trop d'erreurs, mais on les retrouve toujours sur des listes des ordres d'émission. Bon, il y a souvent un principe que moi j'ai toujours constaté sur le terrain, on dit ceci, si vous bouffez seul, vous allez aussi tomber seul. De tels gens, je pense que peut-être il est envoyé par son chef direct, mais le chef là ne veut pas apparaître, il lui envoie. Vous pensez que la personne est en train de faire n'importe quoi, mais peut-être la personne est appuyée par une force noire qu'on ne voit pas. Donc, bon, pour lui, M. Théodore, moi je pense que si lui il est dans une telle entreprise, lui doit faire un effort de son côté, soit de demander...
Non, Alain Poutou, dans le cas évoqué par Théodore, donc il n'y a rien en rapport avec les performances, il n'y a rien vraiment en rapport...
Non, il n'y a rien en tout cas avec la performance ici, c'est-à-dire le chef direct est en train peut-être d'utiliser cette personne pour que la personne puisse peut-être aller, n'est-ce pas, détourner l'argent et en privé, il partage entre eux. Donc ça n'a aucun rapport avec les points de la performance. Ce n'est pas qu'on les met là-bas par performance, non, on les met là-bas peut-être soit il est discret ou soit c'est quelqu'un qui sait facilement, n'est-ce pas, apporter les intérêts dans la maison. Bon, par exemple, vous partez en mission, vous êtes soit indiscret. Alors, souvent dans des postes comme les finances, les audits, on a plus besoin des gens qui sont introvertis, c'est-à-dire ils manipulent certains chiffres, mais cela ne se sent pas. Alors peut-être lui, M. Théodore, soit peut-être un extraverti, quelqu'un à tempérament chaud, il est très direct, et vous verrez que le chef va à tout prix, n'est-ce pas, vous éviter à vous insérer dans certains dossiers sensibles. Un principe, il peut aussi peut-être se poser la question, parce que ce n'est pas par rapport à son caractère, donc ça aussi c'est important.
Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'orgueil? On a évoqué, Lucas, l'orgueil de certains agents compte tenu de leur niveau d'études. Ils peuvent ne pas être performants parce qu'ils ne veulent pas se laisser diriger par quelqu'un dont tu l'estimes qui l'a moins étudié par rapport à eux.
Oui, vous savez, je crois l'avoir dit plusieurs fois avec vous dans cette émission. Les problèmes, c'est quoi? Vous pouvez avoir un niveau très élevé. Monsieur le journaliste, la vie professionnelle diffère de la vie académique. Moi, je connais des gens, même présentement, parmi les gens avec qui je travaille. Vous verrez quelqu'un, il est diplômé d'État, mais il a suivi des formations, il est très compétent. Et vous, par exemple, vous avez la licence, vous vous rendez compte que des choses que la personne maîtrise, vous ne les maîtrisez pas. Donc, même si vous avez un niveau très supérieur, et que vous êtes à côté de quelqu'un qui semble être performant plus que vous, évitez d'avoir les complexes de supériorité, essayez d'être curieux. Parce que vous verrez que la plupart des gens, même à l'espace politique, les chefs généralement, surtout chez nous ici au Congo, ce sont des experts en signature et ne travaillent pas sur des dossiers. Les dossiers sont travaillés par des personnes qui occupent des petites fonctions et ils sont des techniciens, des agents de terrain, ils travaillent sur les dossiers et lui, il signe. Donc moi, je pense que même si vous êtes en face de quelqu'un qui a un niveau inférieur par rapport à vous, Si la personne est performante, elle est compétente, je crois que vous devez vous humilier, n'est-ce pas, d'apprendre chez la personne, parce que vous êtes dans la vie professionnelle. Les diplômes, là, c'est dans la vie académique, mais ici, c'est les problèmes de la profession. D'où, il faut un peu de la simplicité, de l'humilité pour apprendre. Au contraire, si vous avez un agent qui est performant et qu'il a un diplôme moins que vous, moi, je pense qu'il faut plus l'utiliser. C'est quelqu'un qui a exploité. Parce qu'en management, on dit qu'un vrai manager, c'est celui qui utilise les compétences des autres. Il sait exploiter les compétences des gens qui sont tout autour de lui. Alors, même s'il a un niveau faible, mais si vous sentez qu'il est compétent, c'est mieux d'ailleurs, c'est une bonne opportunité pour vous. Il va vous aider à travailler sur des dossiers techniques. Il a posé la question de quelqu'un qu'on a promis. Finalement, son parapluie est parti. Lui qui est resté n'a pas de compétences. Une autre personne est venue. Vous voyez, c'est ça l'erreur que j'avais dit au début. Quand vous mettez quelqu'un sans tenir compte de ses compétences parce que vous les connaissez, il faut faire un effort, n'est-ce pas, de les former. Si on ne vous a pas formé, vous-même, là, qu'on a mis dans les postes, faites aussi un effort de développer vos compétences personnelles. Sinon, le jour où vous serez remplacé par un autre chef qui n'est pas celui qui vous a mis là-bas, vous serez exposé.
Voilà, 081-890-63-94, c'est le numéro d'appel pour participer à cette émission Capi Service. Nous parlons de que faire pour être performant au travail avec Alain Poutou, il est expert en ressources humaines.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse. Vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Chris Molongia nous appelle de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Rachel Ndunjo est à Isiro dans la province orientale. Chris, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'aimerais poser cette question-ci. Il arrive des fois dans des emplois où il y a des gens qui travaillent qui sont très performants, dont ils ne bénéficient pas d'une mission quelconque. Faute de tribalisme, donc les employeurs usent des tribalistes, donc ils ne privilégient que les gens qui sont de leur crédit. Quoi que tu fasses, tu ne bénéficieras pas d'une mission, même si tu es performant. Parce que faut-il faire de la part de l'employé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour bénéficier de cette mission, tant que l'employeur est tribal, ne s'occupe que des gens de son crédit?
Merci Chris. Rachel Ndundu, vous êtes ici en province orientale. Bonjour Rachel.
Allô, bonjour.
On vous écoute Rachel.
Ouais, j'ai une préoccupation, j'aimerais te savoir, je ne sais pas si ça se fait vraiment. Des fois nous voyons des entreprises où il y a un monsieur qui est à la tête de l'entreprise et lui il va maintenant embaucher seulement de que toute sa famille. Il embauche tous les gens qu'il connaît, les gens qui sont parentés avec la personne et tout ça. Et j'aimerais juste savoir si de telles personnes, il n'y a pas de sanctions prévues pour les gens là. Et ma deuxième question est de savoir, je ne sais pas, des fois nous voyons des entreprises en refoule des agents, soit pour ça leur donner leur compte final. Et là, je ne sais pas, on est sanctionné par les gens, c'est un peu ça, merci.
Merci Rachel. Alain Poutou, on a comme l'impression que tous les auditeurs reviennent sur le fait que le recrutement est souvent mal fait. On recrute au sein de sa famille, on recrute pour des raisons tribales et tout cela n'est pas de nature à encourager les gens à bien travailler ou bien à faire en sorte que l'entreprise aille de l'avant.
Oui, je l'ai dit ici, tout est parti d'abord du recrutement. Si le recrutement est mal fait, le reste là, en tout cas, je pense pas que l'entreprise doit avoir un résultat raisonnable par rapport à la performance de ses agents. Donc, ce qu'il faut retenir, le recrutement doit être objectif, éviter les faits de recrutement subjectif. Mais dommage, sur le terrain, nous voyons généralement des problèmes de recommandation. Bon, il y a des gens qui disent que les autres frais qui sont affichés là, on les affiche par formalité et on a déjà recruté les agents. Moi, je trouve aussi que il y a aussi la part des responsabilités de la part de nos structures de l'État qui sont censées, n'est-ce pas, coordonner les emplois. Vous voyez, les offres sont affichées. On vous amène ça, vous avisez l'offre et l'offre est affichée. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle commission de recrutement. Moi, j'ai quand même l'expérience de certains pays d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire il y a les services de l'État qui s'occupent de l'emploi, qui mettent en place une commission pour suivre de près des recrutements. C'est-à-dire, quand l'offre est affichée, on doit s'assurer même sur la procédure de sélection jusqu'à établir
d'établir un PV, n'est-ce pas, des présélections. Donc là, on doit éviter qu'il y ait des préférences dans le recrutement. Mais bon, chez nous, vous voyez, l'État laisse ces entreprises-là, elles lancent les offres d'emploi, on les amène, ils avisent, mais ils assistent même pas lorsqu'on fait le dépouillement des CV pour savoir qui on a recruté et qui on a déclassé. Ça aussi, c'est vraiment, monsieur le journaliste, la faiblesse de notre l'État à ce niveau-là, c'est-à-dire ils doivent suivre ces choses-là de près, n'est-ce pas, pour de sorte que si le recrutement n'est pas objectif, il y a des sanctions qui doivent suivre les gens qui ont fait de telles choses. Mais dès que vous laissez les gens comme ça, ils vous amènent les offres, vous ne les suivez pas de près pour savoir ils ont conclu ça comment. Il y a des gens qui poursuivent, les entreprises ne les rappellent même pas pour leur donner la suite si ils sont retenus ou soit ils sont déclassés, ils ne sont pas retenus, pour quelles raisons, on ne dit rien. Donc les le système aussi n'est pas bon, ça vraiment il faut voir ça. Et puis à ces entreprises-là, même moi je me pose la question, qu'est-ce qu'elles veulent? Les résultats ou bien ils font les clientélisme? Parce qu'une entreprise, je prends les cas que vous êtes à la radio, on a besoin, n'est-ce pas, que les travail avancent. Pourquoi on doit tenir compte des relations, des gens, des familles? Mais ces gens-là, s'ils ne sont pas compétents, dites-moi peut-être que si ces gens-là sont compétents, d'accord, parce que c'est un principe, vous ne pouvez pas voir votre frère en train de souffrir, surtout s'il est compétent. Mais s'il n'est pas compétent, il ne faut pas les recruter. Cherchez là où vous pouvez les mettre. Il a posé encore la question de savoir, il y a des gens qui sont là, ils ne travaillent pas, mais on les voit toujours à côté des chefs. Les problèmes aussi, il y a plusieurs choses à identifier. Le monsieur a posé la question, il a dit, lorsque par exemple, quelqu'un qui est autour du chef n'est pas intelligent. Moi qui suis intelligent, je ne suis pas exploité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut d'abord identifier les faiblesses des gens là que vous estimez qu'ils sont exploités, ils sont utilisés. Il est à côté du chef, oui. Par exemple, il est du parti politique du chef, il est de la famille du chef, mais quelles sont ses faiblesses? Voyez, monsieur le journaliste, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Devant de telles situations, les gens ne cherchent plus les options pour s'en sortir. Ils restent calmes, ils disent, bon, écoutez, là où je suis, il y a les problèmes des parapluies, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai dit ici, si vous développez les compétences, même dans des réunions, votre façon d'intervenir, les gens doivent se sentir que cette personne a la matière.
Donc il est important, il est important de par vous-même de faire preuve de vos compétences, de vos aptitudes, de manière à ce que vous faites remarquer. Donc
Pouvez vous vendre la vente des compétences par votre, n'est-ce pas, valeur intrinsèque. Je vous ai dit ici que pour développer les compétences, il faut les formations continues, il faut les séminaires professionnels, il y a des coachings par un mentor et aussi échange d'expérience. Vous êtes par exemple les journalistes à la radio Capi, vous avez des relations avec un journaliste de la RFI, vous êtes en train de faire l'échange d'expérience. Et quand vous allez rentrer à la maison dans des réunions, votre façon de parler, les recommandations que vous êtes en train de formuler sur certaines questions, même tous les collègues, ils sentent que non, on a affaire avec quelqu'un vraiment qui est profond, et vous verrez facilement s'il faut faire le choix de quelqu'un qu'on peut désigner. Ce ne sera plus les chefs qui doivent vous désigner, mais ce sont vos collègues qui diront, écoutez, envoyez Marcel, parce que on sent que Marcel peut nous défendre. C'est ça le principe. Mais quand vous restez calme, il y a des gens, ils sont payés. Lui, c'est les habits, les tapages, mais ils ne pensent pas comment actualiser son savoir-faire.
Voilà, Limputo, on va terminer avec cette réaction de Mohamed El-Boumbachi qui nous parvient par SMS. Il nous écrit ceci. L'une des grandes difficultés que les employeurs ne reconnaissent pas, c'est la mauvaise sélection à base tribale. Donc, on revient finalement sur ce qui paraît être vraiment un fléau. Donc, de recruter sur base de liens de famille ou sur base de liens de la tribu, c'est pas bon. Donc, Limputo, si on doit se résumer, on a compris qu'il faut d'abord que l'agent lui-même puisse faire preuve de ses compétences, également chercher à avoir une initiative de formation et également au niveau de l'employeur, organiser des séminaires de formation de manière à ce que les agents puissent être performants.
Oui, il y a trois choses à retenir, monsieur le journaliste. Oui. Première des choses, d'abord, l'entreprise doit revoir son système de recrutement, avoir des critères d'objectivité pour recruter les agents. Deuxième chose, l'entreprise doit mettre en place un programme de développement du personnel, c'est-à-dire le renforcement des capacités pour les agents. Et en troisième lieu, c'est les efforts personnels de l'agent lui-même. Je vous ai dit ici, à la fonction publique, où vous verrez quelqu'un qui est nommé ministre, mais pendant 5 ans jusqu'à la fin de son mandat, il n'a suivi aucune formation professionnelle. Mais lui, il vient seulement à l'ouverture des activités. Donc ça aussi, c'est un problème. Voyez, voilà. L'agent lui-même doit faire un effort, n'est-ce pas, de se développer. Parce que plus vous êtes compétent, moi je travaille dans une boîte, je maîtrise telle chose, si je sens que la boîte ne me considère pas, mais je vais aller vendre mes compétences ailleurs. Les gens que vous verrez là, il est là, les choses ne marchent pas, on l'utilise pas, il reste sur place. Quelque part aussi, il se sent limité, il doit aller vendre ses compétences où? Avec quoi il peut aller changer la boîte?
Merci. Merci Alain Poutou. Nous rappelons que vous êtes expert en ressources humaines et vous étiez notre invité pour parler de ces sujets. Que faire pour être performant? Merci, à la prochaine.